VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h à Bujumbura au Burundi. Bonjour à tous. Le milliardaire Donald Trump a subi un net revers en terminant deuxième hier à la première étape des primaires présidentielles américaines dans l'Iowa chez les républicains. Côté démocrate, les résultats non définitifs de l'Iowa montraient un écart infime entre Hillary Clinton et Bernie Sanders dans le nombre de délégués obtenus. Anne Alberson.
Appelés à choisir leur candidat pour l'élection du 8 novembre, qui désignera le successeur de Barack Obama, républicains et démocrates se sont rendus en nombre dans les bureaux de vote de ce petit État agricole du Midwest. Dans les deux camps, et dès la prochaine échéance du New Hampshire, le 9 février, la lutte s'annonce âpre. L'ultra-conservateur Ted Cruz, vainqueur lundi côté républicain, tentera de capitaliser sur ce bon départ. Hillary Clinton, favorite avant le caucus de l'Iowa, était quasiment à égalité avec le surprenant sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Aucune télévision américaine ne s'aventurait à désigner un vainqueur entre les deux candidats, séparés par quelques dixièmes de points seulement. Les primaires du New Hampshire suivront donc la semaine prochaine, puis les autres États jusqu'en juin. Les candidats des deux partis seront désignés en juillet.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier à Genève que l'épidémie du virus Zika, soupçonnée de causer des malformations congénitales, constituait une urgence de santé publique de portée mondiale. À l'issue d'une réunion exceptionnelle de son comité d'urgence, l'OMS a jugé qu'un lien entre ce virus transmis par un moustique et une hausse exceptionnelle de cas de microcéphalie, malformation congénitale dont souffrent les enfants nés avec une petite tête. Fadela Shaib, porte-parole de l'OMS à Genève.
Ils se sont réunis par téléconférence. Ils ont décidé de déclarer que les désordres neurologiques et les malformations des enfants et des adultes est une préoccupation sanitaire de portée internationale, mais pas Zika. Zika est un virus qui ressemble à la dengue, au chikungunya et à la fièvre jaune et qui sévit dans beaucoup, beaucoup de pays depuis son apparition en 1947. Il ne constitue pas une préoccupation majeure de santé publique. Ce qui constitue une préoccupation majeure, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a un lien temporel et spatial entre le virus Zika et l'apparition de syndrome de Guillain-Barré et la microcéphalée. La microcéphalée étant une maladie qui touche les enfants qui naissent avec des petites têtes. Est-ce qu'il y a un lien? Pour l'instant, scientifiquement, le lien entre Zika et la microcéphalée et les autres désordres neurologiques n'est pas prouvé, d'où l'importance de déclarer cela comme une urgence sanitaire de portée internationale afin d'expéditer les recherches et la mobilisation internationale pour essayer de voir est-ce qu'il y a un lien et s'il y a ce lien, comment en sortir.
Fadela Shaib, porte-parole de l'OMS à Genève. L'ouverture d'un nouveau front contre le groupe État islamique est désormais sérieusement envisagée par les États-Unis et d'autres pays qui se réunissent aujourd'hui à Rome. Cette ouverture est envisagée en Libye, mais une intervention militaire s'annonce délicate à lancer. Les pays africains s'inquiètent notamment de l'avancée de l'État islamique dans le sud libyen, une immense zone désertique, ce qui est en particulier dangereux pour le Niger et le Tchad, selon le chef de la mission de l'ONU, Martin Kobler. En Tunisie, 3 djihadistes présumés ont été tués et un membre des forces de sécurité blessé dans le cadre d'une opération antiterroriste dans la région de Gabès dans le sud du pays. Selon le ministère de l'Intérieur, aucune indication n'est fournie sur l'identité des djihadistes tués ni sur le groupe visé par cette opération.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Nigeria, le bilan de l'attaque de samedi à Dalori, près de Maiduguri, est révisé à la hausse. Les autorités parlent d'au moins 85 morts dans cette attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram. Eric Manirakiza.
D'une cinquantaine de morts, le bilan est passé à au moins 85 à Dalori, selon le docteur Haruna Mcheliya, commissaire à la santé pour l'État de Borno. Baluma Maloum, un rescapé, affirme avoir vu dans ce village au moins 20 cadavres tellement calcinés qu'ils ne sont pas identifiables et que 15 villageois sont toujours portés disparus. Moussa Adamou, membre des milices d'autodéfense, a parlé de plus de 100 morts, mais ce chiffre n'a pas pu être vérifié. Le président Muhammadu Buhari doit se rendre mercredi à Strasbourg, s'adresser au Parlement européen. Il se rendra ensuite le lendemain à Londres pour assister à une conférence de donateurs pour la Syrie et plaider pour plus de soutien au Nigeria et aux autres pays en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.
Congo-Brazzaville, Amnesty International appelle les autorités à libérer immédiatement et sans condition l'opposant Paulin Makaya. Le président d'Unis pour le Congo est détenu depuis plus de 2 mois. Amnesty International estime que M. Makaya est prisonnier politique. Retour sur le 26e sommet de l'Union africaine qui s'est terminé ce week-end dans la capitale éthiopienne. Les chefs d'État ont renoncé à envoyer une force au Burundi et ont choisi de privilégier la discussion avec Bujumbura. C'est une grande déception pour les Burundais, opposés au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gordien Nyongeko, secrétaire général, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou FOCOD.
C'est une réaction d'indignation parce que cette organisation panafricaine a raté une occasion historique pour pouvoir mettre à son actif une réalisation sanitaire en refusant la mission pour la protection du Burundi Maprabou. L'organisation panafricaine a raté une occasion historique. D'un autre côté, on n'a pas été surpris parce que la plupart des chefs d'État ont refusé de créer un antécédent qui pourra aller poursuivre parce que certains sont hantés par l'esprit de dépasser les mandats, de violer les constitutions. Comme on le disait, là, c'est... En plus, la décision qui a été prise est incompréhensible, voire inquiétante. Vouloir dire que pour secourir le peuple burundais qui est en train d'être tué, arrêté, exécuté, torturé, dire qu'ils doivent demander l'autorisation du bureau pour pouvoir secourir les citoyens burundais, c'est historique, c'est incompréhensible et ça dépasse toute logique.
Maintenant, quelle solution pour le Burundi, selon vous?
Pour le Burundi, je crois que et les Nations Unies et l'Union africaine, qui étaient des institutions internationales garantes de la sécurité dans le monde, comme elles se montrent très réticentes à pouvoir secourir le peuple burundais, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils assument la responsabilité de ce qui va arriver au peuple burundais. Il y a un génocide qui a commencé à petit feu. Tous les signaux montrent que si rien n'est fait d'un moment à l'autre, il peut y avoir un embrasement de tout le Burundi et aussi avec des conséquences au niveau de la sous-région et voire au niveau du monde entier. Dans ce cas, il faut que ces institutions puissent assumer la responsabilité.
Est-ce qu'il n'y a pas de solution de discussion soit à Arusha ou bien à l'intérieur du Burundi?
Ce n'est pas concevable ou compréhensif, c'est que à la fois le pouvoir de Bujumbura refuse une force de protection des citoyens qui sont en train d'être tués par les forces de sécurité, et d'un autre côté, il refuse le dialogue qui est la seule solution incontournable pour pouvoir rétablir l'ordre dans le pays. Plus de 9 mois, qu'il y a des déclarations, qu'il y a des missions, qu'il y a des initiatives théorique. Et je pense que le moment des initiatives théoriques était terminé, qu'il faudrait passer par des actions concrètes.
Gordien Nyongeko, le secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou FOCOD, au Burundi.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Une rencontre entre l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, et la délégation du régime de Damas a commencé au Palais des Nations à Genève, en Suisse, où un fragile processus de discussion se met en place pour tenter de régler la crise syrienne. Il s'agit de la deuxième rencontre depuis vendredi entre les représentants du gouvernement syrien et M. de Mistura, qui espère obtenir des gestes humanitaires afin de consolider le processus de discussion et y entraîner l'opposition toujours très méfiante. Un Saoudien condamné à mort pour meurtre a été décapité au sabre mardi dans le sud de l'Arabie Saoudite. Le prévenu a été exécuté à Aba, une ville de la province d'Assir, dans le sud-ouest du royaume. Selon le communiqué cité par l'agence officielle SPA, il s'agit de la 57e exécution depuis le début de l'année. Le 2 janvier, 47 personnes avaient été mises à mort au cours de la même journée pour terrorisme, notamment le dignitaire opposant chiite Nimr al-Nimr, dont l'exécution a provoqué une crise diplomatique, vous vous en souvenez, entre Riyad et Téhéran. Il est 13h38 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Le prochain vous sera présenté dans 50 minutes par Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.